Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que. Bonjour et bienvenue pour cette édition de Avant l'orage. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu. Bonjour.
Bonjour.
Mathieu, tu fais partie de la Bibli, les lunes, les lins, les lynx. Et aujourd'hui, tu es venu nous parler de trois livres qui t'ont marqué ou qui t'ont plu. Photos sur demande, qui a été écrit par Simon Chevrier en 2025. Un désir de mesurer d'amitié, écrit par Hélène Giannettini en 2024. Et Les enfants endormis de Anthony Passeron en 2022. Donc c'est des livres qui sont tous assez récents. J'ai pas cité les maisons d'édition, mais Photos sur demande, c'est chez Stock. Un désir démesuré d'amitié aux éditions Le Seuil.
Oui, c'est ça.
Et Les enfants endormis aux éditions du Globe. Et donc, ces trois livres, ils ont des points communs. Et pour commencer, on va présenter les différents livres un par un, et peut-être que les auditeurs et auditrices commenceront un peu à comprendre où sont les similarités. On commence par celui de 2025. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Photos sur demande de Simon Chevrier ?
Oui, alors c'est son premier roman, il est sorti en début d'année, et c'est issu d'un travail de master de création littéraire au Havre. Donc le titre Photos sur demande, ça vient de sa bio, de sa description sur l'application Giton, on le découvre dans les premières pages, et ça donne ça.
Étudiant en langue, amant sur mesure pour homme cultivé, prix et photos sur demande.
Alors Giton, il y a inscrit depuis un an, c'est une appli d'escorting. Simon, il utilise aussi beaucoup Grindr, mais pour trouver des amants. Et même s'il y trouve plutôt des plans cul jetables en général, il a quand même envie de trouver l'amour. Alors ce livre a des airs d'autobiographie érotique, un peu à la Guillaume Dustan, avec une succession d'hommes qu'il rencontre, mais c'est pas que ça. La narration est découpée en petites vignettes qui sont juxtaposées, sans beaucoup plus de liens entre elles que le temps qui avance. On saute de paragraphe en paragraphe, d'un événement à l'autre, d'une description à une réflexion. Mais assez vite, on remarque qu'il y a des lignes narratives qui se dégagent et sur lesquelles, en fait, les vignettes vont s'enfiler à quelques pages de distance. Parmi ces grandes lignes narratives, il y a le récit de la vie quotidienne avec des études mises en pause, des petits boulots précaires, des amants, des amis, des applis, des clients. Tout est très cru, parfois un peu creux. Mais les autres lignes narratives qui viennent couper cette succession-là, c'est d'abord ce qui concerne la famille. Son père, qui est condamné par les médecins, est confronté à l'impossibilité de décider de la fin de sa vie. Il y a aussi le confinement, le décès, le souvenir et le deuil. Donc ça, pas une ligne forcément super gay, mais il y a aussi donc le corps, la santé, qui prennent une grande place, son corps et sa santé, avec la marque aussi de plus en plus tangible au fur et à mesure du livre d'une santé mentale qui peut être défaillante. Et la dernière ligne narrative, celle qui fait que Photos sur demande est aujourd'hui dans ma liste, et aussi qui donne un double sens au titre, c'est cette photo qui obsède Simon. Alors ça commence comme ça.
Alors que je confie à Thibaut ma rencontre foirée avec Alexis, j'observe dans sa chambre quelques nouveautés. Une plante sur son bureau, un meuble repeint en bleu, et des photos scotchées au-dessus de son lit. Parmi elles, un cliché en noir et blanc d'un jeune homme corps plié, se suçant le doigt de pied. Un garçon au visage fin et à la mâchoire ciselée, sans poils de barbe, un charme androgyne qu'on peut trouver dans les magazines de mode, un mélange entre danseur et mannequin dans sa corpulence, un peu comme Bowie. Il a le nez droit et une indéniable photogénie, une façon de prendre la lumière comme peu de modèles savent la capter. Pour Thibaut, ce n'est que l'amoureux qu'il désire, son regard traversant le cadre, la coupe de cheveux au bol, les veines en relief et la musculature qui se devine reflètent l'aspect physique d'un idéal qu'il ne saurait imaginer contre lui. Quand moi je l'observe, je m'interroge sur cette mise en scène. La spontanéité du moment, le sujet, la personne prise dans son jeu. L'écart entre l'acteur et ses propres désirs. Je me demande à quel point cette pose était préméditée. Je me demande si ce pied de nez est adressé à moi seul ou à tous ceux qui posent les yeux sur lui trop longtemps. Sur le moment, Thibaut n'a pas su me dire qui avait pris la photo, mais en cherchant un peu sur Internet, j'ai fini par trouver. La photo s'intitule « Daniel Shook, Sucking Two ». Elle a été prise en 1981 par Peter Udjar, photographe new-yorkais, mort du sida en 1987. Pour Google, Daniel Shook semble n'exister que par cette photo. Chaque lien, chaque clic, le ramène à elle. Si je tape en anglais « Who is Daniel Shook ?», les résultats de recherche me rendent compte de son inexistence en tant qu'être humain. Sur la page d'un site cliqué au hasard, un internaute, fan inconditionnel du photographe, s'interroge sur l'identité du garçon et lance un appel à témoins.
L'obsession de Simon pour cette photo devient un thème du livre et ça l'amène à faire des recherches pour savoir qui est ce giton qui pose, pour savoir quelle a été sa vie. Alors il met en scène ses recherches sur cet inconnu dans ce livre, et cet inconnu auquel peu à peu il s'identifie, et par lequel peut-être il vit une partie de son deuil et se construit de nouvelles filiations qui lui manquaient.
Et en parlant de filiation manquante, ça nous permet d'arriver au livre « Un désir démesuré d'amitié » d'Hélène Giannichini, qui a été publié l'année dernière. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre ? Alors, c'est pas vraiment un roman, c'est pas vraiment un essai, c'est d'autant plus difficile à résumer peut-être.
Oui, mais finalement, il y a une thématique assez continue qui est l'amitié, comme le titre l'indique. Moi, un désir démesuré d'amitié, c'est une amie, justement, qui me l'a envoyé par la poste à l'automne, et dans la carte postale qui l'accompagnait, elle m'écrivait « Je t'offre ce super doux éloge de l'amitié. Dans ce désir démesuré d'amitié, tu retrouveras des amis, eux, des archives queer, des photos d'un autre temps, d'amantiques transpédéguines, de l'histoire, de l'espoir, et beaucoup de douceur. » Et la photographe Donna Gottschalk à découvrir. Plein de bisous, Romane. Est-ce que, Colline, tu peux nous lire les premiers mots du livre, s'il te plaît ?
On ne m'a pas raconté une partie de mon histoire. Connaître ma famille n'a pas suffi. J'ai eu besoin d'une autre filiation pour prolonger et augmenter la première, pour parfois la déjouer aussi. D'une filiation qui n'a plus rien à voir avec le sang. J'ai cherché les personnes qui, avant moi, ont construit leur vie selon les mêmes désirs et aspirations. Je sais que je leur dois beaucoup et qu'elles ont rendu mon existence possible. Comment qualifier cette histoire que je poursuis ? Féministe ? Minoritaire ? Queer ? Certainement. C'est une histoire politique, une histoire de lutte et d'amitié, de liens dits mineurs qui sont assez peu consignés dans les archives et s'effacent quand les gens disparaissent. C'est une histoire qui est encore en train d'être découverte et écrite, qui s'élabore d'après des traces souvent fragiles et doit s'extirper de la honte et du silence. J'ai besoin d'elle, sinon la solitude l'emporte. Longtemps, j'ai cru que je n'existais pas.
Je crois que c'est difficile de dire mieux ou davantage à propos de ce qui se trame dans ce livre. Hélène Giannichini explore des centres d'archives communautaires, mais aussi la parole qu'elle reçoit et les connaissances qu'elle reçoit aussi d'une amante plus âgée qui a enterré tous ses amis à cause du sida et qui a aussi lutté à ACT UP, qu'elle reçoit aussi d'une photographe états-unienne, septuagénaire, qui la laisse entrer chez elle et fouiller dans ses clichés, qui lui raconte les histoires de ses amis qui sont photographiés. Elle fouille aussi dans sa propre histoire personnelle et elle nous donne à lire ses conversations tardives avec ses amis, ce qui s'y élabore à partir des textes de Queer and Gender Studies. Et alors ça grouille entre ces pages, c'est une sorte de petit manuel d'autodéfense minoritaire contre l'invisibilisation, et pour l'élaboration de communautés d'amis et d'amants, où il ferait bon vivre, naître, renaître, vieillir.
Et on commence à faire le lien, hein, à comprendre que le lien entre les différents livres que tu proposes, c'est cette question de la recherche d'archives autour des communautés qui sont minorisées, notamment les communautés LGBT. Et il nous reste donc un livre à présenter, c'est « Les enfants endormis ». Il a été publié en 2022, c'est là aussi un premier roman. Anthony Passeron, c'est un professeur de lettres-histoire en lycée pro à Nice. Alors, de quoi parle ce premier roman, Les enfants endormis ?
Eh bien, là, contrairement aux deux précédents qui parlent donc de communautés minorisées, pour le coup, c'est plutôt une promesse à la Annie Ernaux qui concerne plutôt des gens qui sont d'une classe subalterne et pas forcément minorisés au sens communauté LGBT ou personnes racisées. Ça commence donc par cette promesse qu'il s'agit d'écrire pour venger et pour faire exister ce qui n'a sa place nulle part ailleurs, une famille qui n'intéresse personne et qui pourtant a été malmenée par l'histoire. Mais dans la honte, dans la solitude, dans un certain déni aussi, cette histoire a frappé cette famille. Et donc tout commence sur un silence autour de Désiré, l'oncle qui a disparu.
Oui, je parlais de la question du silence et la question des archives et la question de l'effacement, en fait.
Oui.
Comment ces livres, ils viennent lutter contre l'effacement ?
C'est ça. Et donc là, on a en effet une personne dans la famille qui a un vécu minorisé, mais la promesse du livre, elle concerne plutôt la famille tout entière, y compris les parents, les grands-parents qui sont plutôt des commerçants installés, notables dans le village. Et c'est ça qui décale un petit peu le livre et qui donne un point de vue très intéressant aussi, je trouve.
Je vous lis le début ?
Oui, c'est dans le premier chapitre.
Dans la famille, tous ont fait pareil à propos de Désiré. Mon père et mon grand-père n'en parlaient pas. Ma mère interrompait toujours ses explications trop tôt. Avec la même formule. C'est quand même bien malheureux, tout ça. Ma grand-mère, enfin, éludait tout, avec des euphémismes à la con, des histoires de cadavres montés au ciel pour observer les vivants depuis là-haut. Chacun, à sa manière, a confisqué la vérité. Il ne reste aujourd'hui presque plus rien de cette histoire. Mon père a quitté le village, mes grands-parents sont morts, même le décor s'effondre. Ce livre est l'ultime tentative que quelque chose subsiste. Il mêle des souvenirs, des confessions incomplètes et des reconstitutions documentées. Il est le fruit de leur silence. J'ai voulu raconter ce que notre famille, comme tant d'autres, a traversé dans une solitude absolue. Mais comment poser mes mots sur leur histoire sans les en déposséder ? Comment parler à leur place sans que mon point de vue, mes obsessions, ne supplantent les leurs ? Ces questions m'ont longtemps empêché de me mettre au travail, jusqu'à ce que je prenne conscience qu'écrire, c'était la seule solution pour que l'histoire de mon oncle, l'histoire de ma famille, ne disparaisse pas avec eux, avec le village. Pour leur montrer que la vie de Désiré s'était inscrite dans le chaos du monde. Un chaos de faits historiques, géographiques et sociaux. Et les aider à se défaire de la peine, à sortir de la solitude dans laquelle le chagrin et la honte les avaient plongés. Pour une fois, ils seront au centre de la carte. Et tout ce qui attire habituellement l'attention se trouvera à la périphérie, relégué. Loin de la ville, de la médecine de pointe et de la science, loin de l'engagement des artistes et des actions militantes, ils existeront, enfin, quelque part.
Merci. Donc le décor, là, c'est une sous-préfecture des Alpes-Maritimes, qui n'en est plus une aujourd'hui. Des rues où plus aucun commerce ne subsiste aujourd'hui. Des familles de commerçants et artisans qui accèdent après-guerre à une vie confortable, qu'ils souhaitent transmettre à leurs enfants au prix d'un travail acharné. Mais voilà que cet espoir d'une vie matérielle meilleure qui les a aiguillonnés toute leur vie, il vient à faire défaut à de larges franges de la nouvelle génération qui désespèrent d'être condamnés à une vie qu'elles trouvent trop rigide et sans saveur, la vie de leurs parents. Alors jusque-là, rien de nouveau peut-être, mais de ces vies minuscules d'une vallée minuscule au pied des Alpes arrivent de nouveaux acteurs, venus de la grande histoire globale. La première, c'est l'héroïne, car les tentacules de la production mondialisée des drogues dures finissent par se frayer un chemin et faire entrer l'héroïne dans la vallée. Elle se jette sur les jeunes gens qui sont alors en quête d'exutoire. Et le deuxième acteur, qui rampe dans le roman dès son début, avec un chapitre sur deux qui lui est consacré, comme un tic-tac, jusqu'à ce qu'enfin démasqué, il prenne toute la place, c'est le sida. Alors, Anthony Passeron cherche à l'aide de témoignages de ses parents et surtout des archives vidéos, photos et cartes postales de sa famille, de reconstituer ce que furent ses vies. Et un chapitre sur deux, donc, il donne à lire l'histoire des scientifiques et médecins qui débusquent le sida, dans une synthèse vraiment, vraiment très claire, allant des premiers patients en 1981 jusqu'aux trithérapies qui sont arrivées à partir de 1996.
Oui, c'est le seul que j'ai lu, donc je peux un peu en parler, mais c'est ce que tu dis, c'est qu'on alterne des chapitres avec... c'est quand même raconté de manière narrative, hein, on retrouve les scientifiques qui sont mis en scène dans leur quotidien, et des chapitres qui sont quand même des autofictions, parce qu'on retrouve la vie de Désiré telle qu'elle a peut-être été, mais on ne sait pas tout, en fait, sur cette histoire.
C'est le livre qui met le moins en scène, en fait, sa recherche. Donc, il y a des moments où on voit, en effet, qu'il est en train de regarder des cartes postales et ça, il le met en scène. Mais sinon, après, il n'explique pas vraiment à quel point les choses sont de la fiction, à quel point les choses sont tirées de témoignages. D'autant plus qu'il dit que la plupart des gens sont morts. Donc, c'est quand même compliqué, on se dit, d'avoir autant d'informations pour écrire tout ce roman. Alors que les autres livres sont beaucoup plus... en plus de recul sur « je sais ça parce que je l'ai appris d'un tel, et là, maintenant, je vais faire de la fiction parce que je dois combler un trou. » Et lui, il le dit pas.
En tout cas, moi, j'ai adoré ce livre. Je l'ai trouvé vraiment... Enfin, c'est vraiment le livre, tu le dévores, et ça t'apprend plein de choses, quoi.
Oui, c'est sûr.
Donc, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi de mettre en lien ces trois livres ?
Oui, alors bon, vous avez sûrement remarqué, donc on l'a déjà dit, que ce qui est en lien entre... Le lien qu'il y a entre ces trois livres, c'est que... il y a une recherche qui est mise en scène, alors plus ou moins mise en scène, on vient de le dire, qui implique personnellement les autoristes, et pour des raisons qui sont assez communes. Donc il y a les questions de filiation, qu'elles soient généalogiques pour Anthony Passeron, mais aussi plus métaphoriques ou politiques pour Simon Chevrier et Hélène Giannichini, même si Hélène Giannichini parle aussi de sa propre filiation, de sa propre famille. Il y a des questions de deuil, il y a des questions de lutte contre l'invisibilisation et la disparition des mémoires. En général, là, ce qu'il y a dans ces trois livres, c'est l'invisibilisation qui est celle des gens qui ont vécu la pandémie de sida et qui en sont morts, ou les gens qui en sont rescapés aussi, qui ont soigné des amis ou de la famille, ou qui survivent grâce aux trithérapies jusqu'à aujourd'hui. Cette thématique du sida qui est commune aux trois livres, mais qui ne les résume pas, parce qu'il y a aussi plus que ça, c'est ce qui m'a intéressé aussi, parce que c'est une thématique pour nous qui avons vécu l'après, où c'était quelque chose de moins présent que dans les années sida, on se rend compte à quel point ça fait partie d'une histoire communautaire LGBT et d'une histoire des oppressions, en fait. Et donc il y a quelque chose de très émotionnel dans le fait de se rappeler cette mémoire-là qui a tendance à disparaître.
Et pour parler de cette question de notre rapport, du rapport de notre génération aux années sida et à la disparition, ou en tout cas aux traces de cette mémoire, tu as choisi quelques extraits que tu avais envie de nous lire. On t'écoute.
Oui, alors celui-là, il est dans Un désir démesuré d'amitié d'Hélène Giannichini. Elle nous parle de cette relation assez difficile qu'elle entretient avec son amante qui a quelques dizaines d'années plus qu'elle et qui a vécu donc ses années sida et qui a donc enterré la plupart de ses amis et qui a milité à ACT UP. Et du fait que ça, c'est source de conflit, en fait, cette mémoire du sida par rapport à cette personne. Donc, je lis. Des années plus tard, en découvrant La gentrification des esprits de l'écrivaine et militante d'ACT UP New York, Sarah Schulman, j'y repense à elle. Au début de cet ouvrage, Sarah Schulman évoque la désaffection de la mémoire et déplore que les jeunes personnes queer qu'elle rencontre ne s'intéressent pas au sida, qu'elles méconnaissent leur propre histoire, ses conséquences et les personnes qui ont eu un rôle décisif. Je pense que Myriam, son amante, ne la contredirait pas. Je les imagine même boire un café ensemble en partageant leur déception. Et elles auraient sans doute raison, c'est vrai. Nous avons mis du temps à comprendre ce qu'elles ont affronté, la mort, mais aussi l'indifférence des pouvoirs publics, la cupidité des assurances, des promoteurs immobiliers, des laboratoires, le mépris des politiques. Sarah Schulman refuse que ses amis gays soient morts pour rien. Elle veut que l'on se souvienne qu'ils se sont consacrés à la lutte, qu'ils ont refusé de disparaître en silence. Ma génération est à la croisée de plusieurs critiques. Soit on nous accuse d'indifférence, soit on pointe notre tendance à nous approprier une histoire que nous n'avons pas vécue. « Tu ne peux pas savoir, tu n'y étais pas », me disait souvent ma compagne, et je ne pouvais rien objecter. C'est vrai, je n'y étais pas, et il me fallait tenir une position difficile. Ne pas prolonger un silence tout en laissant la parole au témoin. Parler et me taire. Je me demande quelle est ma place et celle des personnes queer de mon âge, coincées à l'intersection des reproches contraires. Nous sommes tantôt des enfants ingrates, tantôt des intruses, voire des personnes intéressées par l'extraction opportuniste d'une histoire.
Ça m'a donné la chair de poule.
Mais ce livre est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est la question que fait ressortir Giannichini par rapport au rapport Hélène Giannichini, pardon, par rapport au rapport au sida, donc cette transmission directe de la mémoire qu'elle reçoit de plusieurs personnes dans le livre, mais aussi de certaines archives, parce qu'elle va dans le fonds sida, dans les archives de l'IMEC à Caen, et donc elle découvre plein de choses, mais il y a cette question de que faire de ça par rapport à une position située, le fait qu'elle n'a pas vécu ça. Dans Les Enfants Endormis, chez Anthony Passeron, c'est dans cette alternance des chapitres qu'on découvre du coup une histoire qui est assez mal connue, celle des chercheurs et chercheuses françaises et français qui ont découvert le virus du VIH, et qui est vraiment extrêmement intéressant. Et du coup, on pourrait même décider de lire qu'un chapitre sur deux pour aller un peu plus vite dans cette histoire et découvrir d'une façon super claire ce qui est cette histoire de la découverte à partir de 1981 du sida, et aussi de toutes les oppositions qui ont été trouvées sur cette route, du fait de l'homophobie des milieux médicaux et de la recherche, et vraiment du courage qu'ont eu ces scientifiques qui se sont accrochés, et aussi du fait qu'à partir de ce moment, les malades ont une place complètement différente dans la recherche, parce qu'en fait, les médecins les voient mourir, et donc du coup, on peut pas se permettre de faire de la recherche d'un côté et de pas prendre en considération les connaissances ou les sentiments des patients. Ça, c'est aussi un côté qui est très intéressant. Et l'intérêt aussi du livre d'Anthony Passeron, c'est qu'il présente des aspects de l'épidémie de sida qui sont assez peu connus, parce qu'on a le point de vue d'un malade du sida qui a attrapé le sida parce qu'il est héroïnomane. Et aussi, on a l'histoire d'un enfant né séropositif. Et ça, c'est des vécus qu'on trouve assez peu. Et puis donc, en plus, cette très bonne histoire des sciences qui est délivrée un chapitre sur deux. Et enfin, dans Photos sur demande de Simon Chevrier, là, c'est vraiment, on se heurte à la rupture dans l'histoire homosexuelle, avec cette grande saignée de l'épidémie, avec ces générations perdues du fait de tous ces hommes homosexuels qui sont morts dans ces années-là. Et en fait, ça fait un mélange du coup entre cette autobiographie érotique de Simon Chevrier et cette anxiété, cette hypocondrie qu'il peut ressentir à d'autres moments, et le fait que, bah, en fait, l'épidémie de sida, elle est toujours présente aujourd'hui. Et il y a un moment dans le livre où il prend un traitement d'urgence parce qu'il pense qu'il a potentiellement été infecté. Et donc, ça fait ce rappel que, bah, en fait, c'est toujours présent, et ça modèle toujours les vécus minoritaires LGBT aujourd'hui. Et donc, en fait, au-delà de cette question de la pandémie sida, on a ce que Arlette Farge, l'historienne, appelle le goût des archives. Et là, j'aimerais bien vous lire peut-être un dernier extrait sur ce goût des archives qui vient de Simon Chevrier. Pour le coup, lui, il fait sa recherche d'une façon que je trouve tellement audacieuse. Il envoie des tonnes de messages à plein de gens sur Internet. Alors, contrairement aux autres qui ont un rapport très matériel aux archives, lui, c'est vraiment que de l'Internet. Et il fait sa recherche donc sur un homme qui a vécu aux États-Unis, mais il reste dans son salon à Toulouse. Et c'est extraordinaire. Il envoie des messages sur Instagram à des artistes super connus, et il y a des gens qui lui répondent. Et en fait, on se dit, waouh, en fait, on peut faire des trucs. Enfin, on se rend compte que c'est possible de mener des recherches même sans sortir de chez soi, et en ayant juste l'audace d'envoyer des messages à plein de gens. Et donc, je pensais donc à trois petits extraits, si je les retrouve. L'artiste Ira Silverberg, ami de David Vojnarovitch, que j'ai également contacté, comprend mon besoin de savoir qui était Daniel. Il trouve ça beau qu'une personne venue de loin s'intéresse à son histoire 40 ans plus tard. Il sent comme moi que l'absence d'écrits à son égard rend la recherche mystérieuse. Que je le retrouve ou non, l'important c'est la démarche elle-même. Avec toute la connexion qui se crée en songeant à nos disparus, à l'affiliation que je ressens quand j'observe les photos de Daniel, et au scénario que je m'invente, au-delà de leurs contours. Et un petit peu plus tard... Alors que je ne l'espère plus, je reçois un mail de l'assistante du commissaire d'exposition Joël Smith. Elle se présente, m'écrit qu'il a eu vent de mon intérêt par Daniel Chouk, par un tiers, et souhaite me faire part des informations qu'elle possède sur lui. Finalement, son nom de famille ne serait pas Chouk, mais Choc. Les raisons de ce changement d'orthographe sont pas très claires. Plusieurs négatifs de photos inédites, également prises par Peter Uja, le montrent habillé et assis sur une valise en carton sur laquelle le nom de Dan Chouk, the Mime Dancer, est inscrit en majuscule. En pièce jointe, la copie d'un contrat de renonciation à ses droits à l'image, daté du 7 avril 1981, et signé par lui, autorise Peter Ujar à diffuser ses photos à des fins éditoriales et promotionnelles. Après quelques minutes à naviguer sur Internet en entrant le nom Chouk au lieu de Chouk, je découvre qu'il existe un article sur lui et son activité de mime dans l'un des numéros du magazine The Advocate, publié en septembre 81, quelques mois seulement après que ses photos avec Peter Ujar ont été prises. Le numéro, qui semble un peu défraîchi, est en vente sur un site de livres d'occasion américain, $30 de frais de port. J'envoie un message au vendeur pour lui demander s'il est possible de me photocopier, à titre gracieux, les deux seules pages qui m'intéressent, le remerciant par avance. Et ça, moi, j'aurais jamais osé faire ça, mais le mec lui répond et lui envoie les deux photos photocopiées. Les deux pages photocopiées, c'est fou. Donc voilà, par rapport au goût des archives, je dirais ça de Simon Chevrier. Et après, le livre d'Alain Giannichini est vraiment constellé d'archives. Il y a plein de photos à l'intérieur. Et pour certaines, elle va, à partir d'une photo, retracer toute l'histoire de deux personnes à partir des photos qu'elle a trouvées dans les archives et des cartes postales et des lettres, etc. Et pour d'autres, elle n'a pas assez d'informations et elle va plutôt partir dans la fiction. Mais en général, elle va plutôt essayer de retracer la vraie histoire des gens. Et il y a un chapitre qui s'appelle « Rupture » qui commence avec une photo avec quatre jeunes filles, des adolescentes. Et... j'aurais envie de vous lire le début de leur histoire.
Elles sont quatre. Deux duos d'amis photographiés dans un parc ou un jardin de ville. La photographie date de 1985. Elles ont 16 ans. Et celles qui m'intéressent sont à gauche. Contrairement aux autres, elles ne regardent pas l'objectif. Elles n'ont pas eu le temps de se composer une attitude pour l'image. L'une, un peu gênée, porte une blouse, a les yeux mi-clos et esquisse un sourire. La seconde la tient par le bras et lui murmure quelque chose à l'oreille. Elle a oublié de se figer, ou alors l'a fait trop tard, si bien que sa main, floutée par le mouvement, sort du cadre. On peut dire que ces deux-là font rater l'image. Elles ne prennent pas la pose, tandis que leurs voisines souriantes sont conformes à ce que l'on attend d'elles. Je les adore. Leur complicité est une évidence, que la fixité de l'image n'amenuise pas. Elles se sont rencontrées au lycée un an plus tôt. Elles ont vécu un coup de foudre amical, comme cela arrive rarement. Les mois qui ont suivi ont confirmé cette première impression. Elles ont passé leur temps assises côte à côte en classe, à traîner ensemble pendant la récréation. Quand elles ont quitté l'école, celle qui porte la blouse a commencé à travailler. L'autre a fait des études de secrétariat. Elles sont restées inséparables. Elles ont fait la fête, fumé des cigarettes, rencontré leurs premiers amours, habité sous le même toit. Au verso de certaines photographies, elles indiquent l'année, leur prénom et « meilleurs amis ». Sans le savoir, elles ont composé un album de l'amitié, cette autre manière de faire famille. Il y a des images sur lesquelles elles soufflent des bougies d'anniversaire, des photos de l'emménagement de l'une puis de l'autre, des séquences où elles jouent avec un chien au poil noir, des dîners et des fêtes. Au fil des images, elles vieillissent ensemble. Elles se coupent les cheveux, portent des vêtements plus à la mode. Leur visage s'affirme, leurs gestes se posent davantage. Leurs partenaires les accompagnent, parfois dans le cadre. Ils changent au gré des ruptures. L'une d'elles est finalement accompagnée d'un enfant, un petit garçon aux yeux noirs, né au milieu des années 1990. L'enfant rejoint le duo des amis qui continuent d'exister. Elles vont à la plage, construisent des châteaux, vont à la fête foraine et font de la grande roue dans une ville d'Europe que je soupçonne être Bruxelles. Les vies de ces deux femmes sont des lignes qui se touchent puis se séparent dans un mouvement d'oscillation continue. Toujours proche, jamais semblable. Dans les années 2000, l'une d'elles déménage et choisit d'habiter à la campagne. Son amie reste avec son fils et son compagnon dans la petite ville où la photo a été prise. L'une est seule, l'autre en famille, mais malgré leurs différences, elles restent côte à côte et liées pendant plus de 30 ans. Après le déménagement, d'autres pratiques se mettent en place. Un rituel se répète chaque semaine. Le téléphone sonne, les chiens aboient dans le salon de l'une, l'enfant devenu adolescent crie « Maman !» dans le salon de l'autre, puis leurs voix se rejoignent. Elles sont toujours heureuses de s'entendre, l'habitude n'a pas patiné la joie. Le combiné est emporté dans une autre pièce, la porte fermée doucement pour que personne n'écoute. Le dos se pose sur un dossier de fauteuil et le flot de paroles les emporte. Chacune est au courant des secrets de l'autre, des désirs qu'on ne peut raconter à personne, des aspirations, des regrets. Elles sont à la fin de leur vingtaine, puis elles ont 30 et 40 ans. Leur amitié ne faiblit pas. C'est presque incroyable de se connaître aussi bien. Merci.
Ouais, c'est très beau. Donc ça, c'est voilà, les reconstitutions qu'elle fait à partir de photos et d'archives. Et bien sûr, c'est pas toute l'histoire, ça continue après, parce que bon, ça s'appelle rupture au pluriel, donc on s'attend à ce qu'il y ait des choses un petit peu plus tristes dans cette histoire. Mais voilà, c'est les belles choses qu'on peut lire dans le livre d'Hélène Giannichini. Il y a aussi des choses plus personnelles. C'est un joyeux mélange de plein de choses à la fois tristes et gaies.
Alors, c'est le moment peut-être, à propos de la question des archives et de la question de l'effacement de la mémoire et de la préservation de la mémoire, de parler de la bibliothèque Les Lunes, Les Lins, Les Lynx, puisqu'on n'est pas un centre d'archives, mais on est quand même une bibliothèque. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu ce que c'est cette bibliothèque ?
Alors, c'est une bibliothèque associative qui a sa petite alcôve dans la cantine populaire, 14 rue Nationale à Aubenas, et qui a aussi l'occasion de faire des permanences dans d'autres villes et villages d'Ardèche, notamment à Prades, une fois par mois, à la Petite Bulle, et occasionnellement sur des marchés, surtout pendant l'été. On devrait faire le marché de Burzé cette année, et puis aussi pendant des événements, des festivals. Voilà, ça nous arrive d'avoir des stands à l'extérieur. Et donc, c'est une bibliothèque associative qui a pour but de rendre accessibles des livres, des BD, des romans, des essais, de la poésie, aussi romans jeunesse et des livres pour enfants qui sont dans les thématiques du féminisme, thématiques LGBT, mais aussi antiracisme, lutte décoloniale, questions sociales, en fait, en général, et dans une volonté d'intersectionnalité. Et donc, voilà, c'est des livres qui ne sont pas forcément toujours accessibles, ou alors qui sont accessibles, mais qui coûtent un peu cher. Et donc, notre objectif, voilà, c'est d'en avoir un maximum à diffuser, et l'adhésion est à prix libre, ou sur don de livres dans nos thématiques. Pour en savoir plus, il faut se rendre à la cantine pop le samedi midi. Donc on en profite pour avoir un bon repas et, et on repart avec quelques livres.
Et on peut voir aussi tout le catalogue de la bibliothèque Les Lunes, les Lins, les Lynx sur Big Tata. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Big Tata, c'est un site internet qui référence différents centres d'archives en France autour de centres d'archives LGBT, justement.
Oui. Oui, oui. Donc, vous rentrez le titre qui vous intéresse dans le catalogue Big Tata et vous précisez que vous cherchez dans les lunes, les lins, les lynx. Et ensuite, vous avez tout ce qu'on a. Enfin, si on l'a.
Et alors, les trois livres dont tu nous as parlé, je répète leur titre. C'était « Photos sur demande » de Simon Chevrier, « Un désir démesuré d'amitié » d'Hélène Giannichini et « Les enfants endormis » de Anthony Passeron. On peut les retrouver à la bibliothèque Les Lunes.
Ben, quand tu auras fini Un désir démesuré d'amitié, je le prêterai à la bibliothèque, oui.
Oui, parce que là, tu vas me le passer à moi. Et avant de terminer cette émission, simplement dire que dans Avant l'orage, habituellement, on fait à chaque fois une pépite, un caillou dans la chaussure et un écho avec la vie de la personne qui vient présenter le livre. Est-ce que tu aurais envie de faire ça ? C'est vrai que tu n'es pas arrivé avec un livre, mais avec trois livres. Mais peut-être qu'on peut quand même le faire rapidement ?
Oui, alors... Ben, l'écho et le caillou vont être pour Simon Chevrier parce que c'est celui qui fait le plus écho à ma vie et en même temps c'est celui qui me plaît le moins dans les trois, même si bon, il me plaît suffisamment pour que j'en parle aujourd'hui au RC. C'est-à-dire que Simon Chevrier, il a à peu près le même âge que moi, il est gay comme moi, on a tous les deux d'une génération qui se découvre dans la sexualité par les appuis de rencontre, qui n'arrive pas forcément à faire coïncider un vécu social gay plus normalisé avec une sexualité qui réussirait à se débarrasser enfin de l'autodestructeur et du glauque. Et enfin, c'est quelqu'un qui m'est donc inconnu, mais proche, et si proche qu'en fait, il y a un de mes amis qui est dans ses remerciements. Et puis, il est aussi pas vraiment cisgenre, mais il sait aussi pas vraiment quoi en faire. Il a aussi du mal à trouver un équilibre psychologique et un allant des projets de vie dans sa vingtaine. Et c'est aussi quelqu'un qui se laisse obséder par les choses et les gens. Et cette photo qui l'obsède, moi, je l'avais sur les murs de mon studio pendant des années. Donc, ça fait beaucoup de points communs. Et surtout que cette carte postale que j'avais achetée à la fin d'une expo Peter Ujar au Jeu de Paume, c'est une expo que j'avais visitée avec ma meilleure amie alors qu'on venait à peine de se rencontrer. Donc, ça fait aussi le thème de l'amitié qui est très présent. Le caillou que j'aurais dans la chaussure avec Simon Chevrier, ce serait par rapport au fait que c'est quand même assez triste. Et... quand on lit ça soi-même et qu'on voit la proximité, on est porté par ça. Mais après, ça peut m'arriver aussi d'avoir un peu de recul en me disant « Ouais, mais en fait, il n'y a pas que des gens qui lui ressemblent qui achètent ce livre. » Et c'est vrai que la majorité, c'est sûrement des gens hétéros qui ont un rapport très lointain à ce qu'ils racontent et qui doivent se dire « Ah ouais, c'est vraiment triste quand même d'être homo. Les pauvres, quand même. » Et là, ça me met un peu plus en difficulté. Mais je reste... J'ai quand même passé un bon moment avec Simon Chevrier, mais c'est vrai qu'il y a cette problème que j'ai beaucoup en tête en ce moment, qui est que on arrive à être présent dans l'espace public que si on opte pour un vécu pas forcément victimaire, mais en tout cas qui a une partie de douleur. Et c'est vrai qu'on en ressent et c'est vrai qu'on en a, mais c'est vrai que du coup, Giannichini, il y a un côté plus solaire dans ce qu'elle propose. Il y a quelque chose où elle montre des vies qui, même si elles sont pas forcément toutes roses, on quand même quelque chose qui porte même nous jusqu'à aujourd'hui sur cette force, sur cette et surtout sur la force qui ressort, c'est la force de qui refuse l'effacement en fait, parce que c'est quelque chose qui était sur le point d'être effacé, mais qui là paraît dans un livre qui s'est beaucoup vendu, etc. Donc il y a ce sentiment qu'il y a un petit miracle de choses qui renaissent, et c'est ce qui arrive dans les trois livres, et c'est ça qui émeut aussi beaucoup. Donc du coup, ça serait sûrement ma pépite.
Oui, merci. Merci de porter ces livres ici. et de faire entendre ses voix. Et c'est peut-être le moment de se quitter, mais en tout cas de se dire que tu vas revenir dans l'émission Avant l'orage, et ce sera pour parler d'un prochain livre. Est-ce que tu as envie de nous en dire deux mots, juste pour teaser un peu?
Alors, j'espère que vous avez aimé la thématique des autoristes qui sont impliqués dans leurs recherches et qui ont une question avec la filiation, parce que ce sera aussi le thème de la prochaine émission dans laquelle j'interviendrai pour parler du livre d'Adèle Yon, Mon vrai nom est Elisabeth, que je vous conseille de lire parce qu'il est vraiment extraordinaire, mais on en parlera donc la prochaine fois.
Vous pouvez même le lire avant l'émission, pour après écouter l'émission en ayant déjà tous les uns.
Les vrais fans.
C'est ça. Merci beaucoup Mathieu, et puis à bientôt.
À bientôt.
Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que.